Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Télé 1000 Vaches sur les ondes, l'émission radio de Télé 1000 Vaches sur les ondes de Radio Vassivière. Bienvenue dans ce numéro, d'automne. C'est pas encore tout à fait l'automne calendairement, mais au niveau de la saison, ça y est, on y est. Et voilà, donc on va parler de la rentrée de Télé 1000 Vaches, qui s'est un peu reposée cet été, je crois. Il y a eu pas mal de vacances, mais on a continué à avoir des choses sortir sur Internet, notamment.
Toutes les semaines,
voilà. Donc c'était des vacances. Vous avez programmé des choses, c'est ça, avant de partir?
Même pas, hein.
On était là.
Du monde. Ah, en fait, on est workaholic.
D'accord. Alors, on va parler. Un peu en vrac d'Algérie, d'instruction en famille, de forêt et puis de plein d'autres choses et même de nouveautés. Alors, autour de la table, il y a Maud, il y a Russell, il y a Franck, il y a Ayan et il y a Florent.
Bonjour.
Salut.
Salut. Bonjour.
Salut.
Salut.
Alors, Ayan, c'est la première fois qu'on prononce ton nom dans l'émission de Télé 1000 Vaches, parce que tu es arrivé au mois de juin.
Oui, tout à fait. Je suis arrivée en juin, début juin, et je remplace Manon.
Voilà, Manon qui est partie vers de nouvelles aventures. Et donc, tu remplaces Manon au poste de journaliste, c'est ça?
C'est ça, absolument.
Voilà, donc dans cette émission, on va commencer par quoi? Par une nouveauté qui s'appelle le zapping.
Oui, le zapping du plateau. On appelait ça, oui, c'est simple, c'est l'idée d'un zapping. On veut demander comment de faire participer les gens qui regardent Télé 1000 Vaches, comment ils peuvent être fait partie de l'équipe. Et on a dit peut-être on peut faire une espèce de zapping avec les vidéos qu'ils prennent eux-mêmes avec le portable. Donc l'idée à la base, c'est pour les gens d'envoyer n'importe qu'est-ce qu'ils veulent, des choses drôles, des choses fortes, engageantes. Mais les vidéos, ils ont pris avec le portable, de diffuser sur les réseaux sociaux et bien sûr notre site. Mais voilà, c'est ça. On a un petit extrait d'audio pour une que nous avons préparé nous-mêmes.
D'accord, c'est pour donner un peu aux gens l'idée de ce que ça peut être éventuellement.
Je pense pour les gens qui écoutent sur la radio, parce qu'évidemment c'est visuel, vous pouvez juste imaginer qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est cette racket?
Allez, on va faire un blind test alors. Blind test, zapping Télé 1000 Vaches, première.
Elle chantait sous la lune. Tous les animaux écoutaient la belle voix de la hyène.
Très fatigant. Et plus les années passent, plus c'est fatigant. Voilà.
Alors, voilà un bel extrait audio, effectivement. Alors, il y a des sons assez mystérieux, je dois dire. À un moment, je sais pas, tu as fait des travaux dans ta maison récemment, Russell?
Peut-être.
En tout cas, on entend des bruits.
Il faut regarder les zappings de trouver les réponses.
Ok, d'accord, ça c'est du teaser. Donc alors quand même, on va un peu développer le principe. Donc qui peut envoyer, comment on fait, quel type de vidéo, est-ce qu'il y a un format, est-ce qu'il y a des conditions, comment ça se passe?
Oui, nous avons discuté un peu et on va garder avec le format vertical. Donc vous filmez, n'importe quelqu'un peut envoyer les vidéos. On a demandé que c'est avec un portable, filmé en vertical, et nous avons un mail. On est en train de trouver comment on va faire, mais actuellement, il y a un mail qui est zapping@telemillevaches.net pour envoyer nos fichiers. Et ça serait les petites vidéos, les petits extraits, mais on est preneur de tout.
Alors, vous pouvez déjà envoyer vos vidéos, hein, je pense dès aujourd'hui, hein, mais donc c'est zapping, ZAPPIN1G, @télémillevaches.net.
Exactement.
Et il n'y a pas une page sur le site où on peut téléverser directement la vidéo de nos téléphones? Ça, c'est en cours de réalisation.
C'est presque prêt.
Ok, ça viendra.
D'accord, donc pas de format, on peut faire une vidéo d'une demi-heure si on veut, on vous l'envoie, si ça vous intéresse.
Une minute maximum quand même.
Ah, il y a quand même un format.
Oui, l'idée c'est d'avoir des petits extraits, ça doit être plutôt pris sur le vif et assez spontané. Et ça doit refléter soit la vie de tous les jours ou la vie du plateau, ce que les gens vivent sur le plateau, ce qu'ils ont remarqué, ce qu'ils ont envie de partager, ce qu'ils ont créé et qu'ils ont envie de partager. Ça peut être des moments engagés, des moments de manifestation, des propos qu'on a entendus et qu'on a envie de partager, qu'on a vus en conférence. Voilà, ça peut être plein de choses.
Des vidéos de chats, par exemple.
Oui, je crois qu'il y a vraiment une envie de vidéo de chat depuis tout à l'heure. Ouais.
Oui,
c'est
oui,
Florent.
J'insiste là-dessus, ouais. Très important.
T'as envie de faire des vues.
Du foot,
d'accord. Et ok. Et une fois que vous avez récupéré tout ça, qu'est-ce que vous en faites?
Alors peut-être aussi un truc aussi, bien sûr, qu'il faut s'assurer du consentement des personnes et des chats qui sont représentés dans les vidéos. Hein. C'est très important et on sera vigilant avec ça.
D'accord, oui, c'est ça. Pas d'images volées ou des choses qui pourraient... Ne pas être diffusable, quoi.
Oui, en fait, c'était une grande discussion dans l'EU pour comment on peut, surtout pour les manifestations et ce genre de choses, comment on peut avoir les gens dans les vidéos et protéger leur identité s'ils veulent nous montrer quelque chose, pas des intimes, quelque chose qui peut être sensible pour eux.
Ou c'est même une question toute bête hein, de droit sur l'image des gens. Pour que l'image de quelqu'un soit diffusée, il faut son consentement. Hein. C'est aussi bête que ça. Hein.
Oui, il y a ce côté, mais pour les gens dans le manif, s'il y a des gens qui veulent nous envoyer des choses qui sont engageantes, mais protéger leur identité, on peut trouver une solution de cacher le visage aussi. N'ayez pas peur de nous envoyer un truc. On a pensé sur plein de questions qui arrivent avec ce sujet.
Oui, de toute façon, c'est ça. Les questions, elles vont arriver un peu au fur et à mesure. C'est difficile de tout anticiper. Il va s'en poser plein, en fait. Et alors, voilà. Donc, on vous récupérez les vidéos et régulièrement, il y a une régularité. Vous en faites quelque chose?
C'est encore une bonne question.
Une fois par mois.
Ça, c'est une fois. Parce que vous allez envoyer nous beaucoup de vidéos, donc on peut faire une par mois.
Si c'est beaucoup, ce sera une par semaine, non? Bon, on verra, mais je pense que le rythme sera fixé par la participation qu'on aura, en fait. Hein. Je pense que ce sera ça. Mais pourquoi pas un par semaine, hein, si ça marche à fond? C'est l'objectif, c'est que ça explose les compteurs, en fait. C'est ça qu'on veut faire, hein, non? Vous croyez pas?
N'oublions pas les goguettes aussi, ou les sketchs. Les gens peuvent s'amuser à faire des sketchs, des courts sketchs.
Et l'idée, c'est que les gens s'approprient aussi ce contenu, qu'ils aient envie de participer, qu'on reçoive pas mal de vidéos, et c'est aussi de créer un rendez-vous.
L'alternative du plateau à TikTok, en somme.
Yeah. C'était quoi, Maud a dit c'est une belle idée, ça. Une zapping dans vos mains. J'aime cette idée que c'est un zapping pour les gens de le faire, et donc c'est pour eux de nous envoyer des trucs.
Oui, c'est pas l'esprit du zapping canal qui était plutôt un zapping un peu surplombant qui découpait un peu des choses les gens étaient un peu mis en boîte quoi en général dans les zappings.
Là, oui, puis surtout ça venait de programmes de télé enfin qui avaient été pioché dans la télé. Là, l'idée c'est qu'il soit participatif, que ce soit ce qu'en voient les gens quoi.
Bah ouais, parce que Télé Mille Vaches, c'est la télé faite par ceux qui la regardent.
Ce vieux slogan qu'on va peut-être ressortir.
Pour le réactiver, le vieux slogan. Exactement. Et les racines de Télé Mille Vaches, quoi.
Et alors, comment on fait pour que les gens nous envoient des trucs? Alors que vous avez un peu une stratégie, parce que là, évidemment, c'est la boîte mail va chauffer, on n'en doute pas après la diffusion de l'émission, mais est-ce que vous avez un peu d'autres stratégies aussi pour faire participer?
On va commencer par envoyer ça sur nos canaux habituels. Il y a déjà du monde hein, qui reçoit les informations de Télé Mille Vaches. Hein, 3000 sur Facebook, 800 la liste de mails, sur YouTube, sur Mastodon, sur Instagram. On commence à avoir du monde qui... Et puis on va en parler autour de nous. Et puis ça va faire boule de neige.
Hein. Et il y a aussi, du coup, on a les mercredis après-midi qui sont ouverts pour faire des ateliers ouverts. C'est-à-dire à proposition de qui veut, qui a besoin, qui a un projet. Et on aimerait aussi faire une programmation d'ateliers. et notamment apprendre à filmer avec les téléphones portables. Du coup, si on a des envies, des idées, mais qu'on ne sait pas très bien manipuler l'appareil, on peut venir à ces rendez-vous-là qui seront aussi informés sur les canaux habituels pour apprendre à filmer avec le téléphone portable et être plus à l'aise avec l'appareil. Ça fait partie des...
D'accord, du coup, vous servez un peu de cet outil les mercredis après-midi là, qui commence à être bien implanté en essayant d'en faire un outil de production aussi pour le média Télé 1000 Vaches. C'est ça un peu l'idée?
Ouais.
Et de formation.
De formation, ouais, c'est ça, de se dérouiller un peu par rapport aux médias qu'il y a sur les... Enfin, à ce qu'on a dans la poche, quoi. Cet appareil de captation qui sont nos téléphones portables.
Et ça peut être aussi une porte d'entrée peut-être pour des personnes qui voudraient après... faire encore plus de choses avec Télé 1000 Vaches, d'autres formats, explorer des formats plus longs peut-être ou...
Ouais, parce qu'en plus, ce truc de la gymnastique du filmeur, ça marche très bien avec les téléphones, mais ça peut marcher avec n'importe quel appareil de captation, donc ça peut un peu ouvrir les imaginaires sur ce qui est possible.
La gymnastique du filmeur, c'est bien mystérieux.
Ouais, c'est des mouvements de gymnastique qui nous aident à faire des mouvements de caméra. En fait, à travers cette gymnastique, on découvre tous les mouvements possibles avec notre corps pour faire des mouvements de caméra.
Des plans séquences fous de 2 minutes sur une scène.
Ouais, comment on fait un travelling pas trop sautillant, comment on fait un panneau qui soit assez fluide, panneau latéral, panneau vertical, tout ça c'est le corps en fait, c'est notre principale machine de captation quand on filme avec les mains.
D'accord, donc les dates ne sont pas encore fixées, j'imagine
Non, ça peut même être à la demande. Okay. C'est quand vous voulez. Si vous avez envie de faire de la gymnastique du filmeur, vous nous appelez et puis on le programme ensemble.
Le mercredi après-midi, ouais. À la base.
Donc à 14h, c'est ça? De 14h à 17h, c'est ça toujours?
C'est ça, ouais, les horaires d'accueil.
Est-ce qu'il faut prévenir avant de venir?
C'est mieux.
Ah oui, il faut prendre rendez-vous. Et si vous voulez venir pour la gymnastique, vraiment, on se l'organise ensemble.
Il faut amener des baskets, un jogging,
ouais,
une bouteille d'eau.
Ouais. Un tapis de yoga.
Et c'est adaptable selon la capacité physique de chacun. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire tous les mouvements. Et il y a apprenti et puis confirmé, quoi. On n'est pas obligé de se faire mal.
Si on est en fauteuil, on est super fort pour les travelling, par exemple.
Ah ouais, les fauteuils roulants sont les bienvenus.
Super. Eh ben on attend ça. On attend le premier zapping, le deuxième zapping, mais le premier vrai zapping qui va sortir. On espère bientôt.
Ouais, c'est vachement précis notre communication, mais c'est ça la force de Télé 1000 Vaches.
En septembre.
C'est que tout est très précis et vachement travaillé à l'avance.
C'est
mais,
ça.
Vous allez le voir, ça va être super.
Non, mais l'émission de Télé 1000 Vaches, c'est un peu une réunion en plus pour vous, quoi. Vous décidez de certaines choses, vous précisez les choses entre vous.
On se met d'accord en live.
En public, voilà. Et le public peut peut-être voter pour décider de certains aspects de votre fonctionnement.
Bah, si on est en direct, ça pourrait. Hein.
Ah ouais, avec un numéro de téléphone, ils appellent.
On va y penser.
La prochaine, on la fait en direct.
Hein. Allez.
À fond.
Allez, attention, jingle. Et voilà, donc pour la partie un peu les nouveautés de Télé 1000 Vaches. Et on va passer à la deuxième partie de l'émission qui va s'intéresser aux reportages, aux nouveaux reportages qui sont sortis pendant l'été. Et Florent, tu vas commencer par nous parler un retour sur l'Algérie dont on avait déjà pas mal parlé la dernière fois.
La dernière fois, on en avait parlé par rapport à l'exposition. Oui. Et bien justement, c'est la suite en fait, c'est que cette vidéo sur l'exposition sur la cuisine algérienne organisée par, et même financée par le Cercle Algérianiste, qui est officiellement, de manière assumée, d'extrême droite, hein, financée par le maire de Perpignan, qui est lui-même à moitié un ancien pied noir, ça a fait quelques vues sur Internet, sur YouTube, il y a eu pas mal de commentaires, et puis on a reçu des mails... de diverses personnes, dont une qui se trouvait être le père d'un ami qui habite à Tarnac et qui nous a dit « Moi, je suis pied noir, je suis né en 46 en Algérie et en fait, ça m'a donné envie de témoigner parce que on peut être pied noir et avoir une autre vision des choses par rapport, par exemple, à cette phrase. » C'est surtout le titre qui l'avait interpellé. C'était le titre, c'était une des phrases que prononçait une des personnes du cercle algérianiste qui était avant 1830, l'Algérie n'existait pas. un peu comme on peut dire la Palestine n'existait pas, enfin il y avait rien, etc. C'est un vieux refrain colonial en fait, ce genre de phrase. Du coup, ça l'avait interpellé et puis on s'est vu, on avait une heure et quart de ce nouveau format aussi, hein, qui s'appelle les entretiens de Télé 1000 Vaches, qu'on essaye aussi de sortir chaque mois.
Oui, pour revenir là-dessus, on en a parlé, c'est des formats longs et des longs entretiens avec une seule personne. C'est un cadre assez sobre et précis, quoi, pour prendre le temps.
Voilà, et sans montage. Sauf si, évidemment, il y a un moment donné où ça dérape, où personne n'a envie qu'on monte, mais a priori, on ne monte pas et c'est l'intégralité de l'interview. Et il se trouve que ça a fait une espèce de buzz sur YouTube. On approche les 250 000 vues. Il y a eu un millier de commentaires. Et ce qui était assez chouette, c'est que les commentaires étaient quasiment à 99% sympas, positifs, émus même. Ça change des commentaires où les gens s'engueulent ou disent « Ah, j'aime pas ça !»
Ouais, c'était l'inverse pour le premier sur Algérie. Sur l'exposition, là, c'était vraiment dans l'insulte et les attaques. Donc c'était l'image reflet absolu cette fois-ci.
C'est ça. Il y avait beaucoup d'insultes pour la première vidéo, y compris de bots a priori, donc des intelligences artificielles. Alors que là, on sentait vraiment une communauté, alors plutôt des Algériens vivant en France ou vivant en Algérie, on pense. Et il y a même quelqu'un qui nous a demandé à un moment donné de sous-titrer en arabe, ce qu'on a fait. Alors on l'a fait sur Peertube, qui est un générateur de sous-titres extraordinaire, super fidèle, beaucoup plus efficace que YouTube en fait. Donc on a repiqué les sous-titres de Peertube pour les mettre sur YouTube. Donc les sous-titres en arabe sont très bien. Et ça continue, voilà. Et alors du coup, ça a boosté aussi la personne qui a fait l'interview, qui s'appelle Jean-Louis Maigron, parce qu'il hésitait à raconter un peu plus cette histoire. Et là où il est intéressant et là où c'est fort, c'est qu'il a fait des études d'histoire, qu'il a abandonné par la suite, mais il a gardé la méthode. Et il a vécu le conflit, puisqu'il est né en 1946, donc il était enfant adolescent quand il y a eu la guerre civile et tout ça, et qu'il a dû partir. Donc il a vraiment ce mélange entre chercheur, méthode historien et témoignage. Donc c'est ça qui, à mon avis, c'est ça qui explique que cette vidéo était beaucoup vue. Et il y a même des gens qui disent « j'ai versé une larme à la fin », au moment où il dit que tout ça était un gâchis humain. Voilà.
On en écoute un petit extrait.
Allez,
c'est un court extrait par rapport à la taille de la vidéo, mais ça fait 2 minutes, donc on va avoir le temps de se faire un peu une idée.
C'est vraiment la douleur que j'entends lorsque on a filmé ces personnes qui faisaient l'exposition sur l'Algérie,
oui.
Ou que d'autres documentaires que j'ai vus. Il y a vraiment cette douleur des pieds noirs.
Oui.
Est-ce que tu peux en parler de ça ?
Non, moi j'ai pleuré en quittant mon village, mais comme quand tu quittes, je sais pas, moi, un adolescent qui quitte le village où il a grandi, où il y avait des copains, etc. Voilà. Mais j'ai pas pleuré idéologiquement, si tu veux. Je sais pas comment t'expliquer ça. Mm-hmm. C'est après que je m'aperçois qu'il y a eu un énorme gâchis, même si la colonisation, c'était la pire espèce des choses, et tout, mais quand même, il y a eu un énorme gâchis humain, quoi.
Alors, moi, je ne sais pas quel est le pourcentage de pieds noirs ou descendants de pieds noirs, parce que l'histoire se transmet, en plus, la névrose se transmet de l'exil, etc. Oui. C'est ce qu'il nous disait, d'ailleurs, le cercle algérianiste. Mais je ne sais pas quel est le pourcentage, mais ils sont très massivement Front National, Rassemblement National, les pieds noirs.
C'est étonnant, c'est que la plupart, une grande majorité d'entre eux, quand même, étaient des paysans pauvres, de régions plutôt d'opposition en France. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'en est débarrassé. Il y avait tous ceux qui avaient participé à toutes les révolutions parisiennes, etc. Tout cela, on les a débarqués dans les colonies. Donc, ces gens-là sont partis en étant plutôt, si on parlait comme aujourd'hui, plutôt à gauche. Ils deviennent propriétaires. Et petit à petit, ils deviennent conservateurs de ce qu'ils ont acquis, sans se poser de questions sur d'où ça venait, en fait, parce que je pense que même mon grand-père lui-même, quand on lui a donné cette proposition d'aller en Algérie et d'avoir ces hectares-là, il ne s'est pas posé la question de savoir mais à qui c'était. Lui, il s'est dit « Oh putain, je vais avoir une petite propriété un peu plus grande qu'à Aubenas, j'y vais ». Et puis en plus, il en avait ras-le-bol. Donc voilà.
Voilà, on entend bien effectivement ce que tu décris. Il y a à la fois une précision, la précision de l'historien qu'il est devenu par la suite, mêlée à un vrai témoignage assez fort, quoi, de l'émotion et puis des souvenirs vraiment précis, personnels, circonstanciés. C'est vrai que c'est assez beau de voir ça se déployer sur un temps long comme ça.
Ouais, c'est pour ça, c'est une réussite aussi de ce format, c'est-à-dire de prendre le temps et t'as parfois de croiser des destins intéressants. Voilà, les prochains formats, les prochaines interviews, c'est l'équipe municipale de Gensiou, sur c'est quoi être maire dans le coin.
Avec du coup plusieurs interlocuteurs à la fois.
Voilà, là il y a trois personnes. Et sinon il y a Barbara Glossowski aussi, une anthropologue à venir. Bon, tous les mois on essaiera de sortir des choses comme ça.
Oui, vous étirez le temps un peu dans tous les sens en ce moment. À Télémilvage, vous faites des choses très longues, des choses alors que le zapping est très très courte, des choses un peu moyennes, c'est ça? Vous tentez un peu des...
Bah, en fait, les réseaux sociaux, que sont YouTube, Facebook ou autres, ou Peertube et compagnie, ils fonctionnent pas tous pareil. Et c'est intéressant finalement parce que du coup, effectivement, si on fait des formats courts, ça va être plutôt efficace par rapport à certains algorithmes. Et YouTube, par exemple, est un réseau social qui favorise les formats longs. Donc voilà, c'est jouer avec tout ça, du coup, créer de la diversité, c'est cool.
Ouais, Russell.
Non, juste chaque sujet, il a une forme nécessaire de réussir et d'emporter les messages aussi. Et ça nous permet de travailler dans différents genres et ce genre de... Tu vois, donc c'est cool pour nous aussi de faire différents trucs. Et ce qui est bon avec le format long, qui n'est pas beaucoup de montage, c'est comment on peut avoir une réussite avec quelque chose assez efficace et simple. Sans beaucoup de travail, on peut galérer avec un sujet super complexe niveau technique qui n'est pas vous beaucoup. Donc franchement, cette histoire, c'était notre plus vue.
Ouais, c'est la vidéo la plus vue pour l'instant. Ouais.
Yeah, yeah. Combien maintenant?
250 000 vues.
Yeah, c'est assez grande pour nous et ça fait nous vraiment plaisir pour toute l'équipe, j'imagine, d'avoir ça avec quelque chose. On n'est pas bossé comme des fous, non.
Puis je trouve surtout, c'est intéressant de voir qu'il y a quand même une place pour la parole qui se déploie, alors qu'on a l'impression que le monde, il va très vite, qu'on a besoin qu'il y ait des cuts tout le temps, que là, en fait, il y ait une place pour une parole comme ça qui prend son temps, une heure et demie, qu'on a besoin d'écouter sur un sujet complexe qui est sensible. Enfin, c'est ça que moi je trouve le plus positif dans tout ça, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin de ce temps-là, quand même, malgré tout.
Moi, ce que je voudrais ajouter, c'est que bon, même si j'ai pas regardé l'entretien, parce que pour moi c'était un peu un sujet un peu douloureux, parce que moi-même je suis d'origine algérienne et que auparavant j'ai pas mal travaillé sur les histoires coloniales et que aujourd'hui j'ai un peu envie de faire un stop, enfin de freiner un peu ça. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'en tout cas l'histoire coloniale française, mine de rien, elle suscite encore beaucoup d'intérêt et que les gens ont des choses à dire dessus, contrairement à ce que vont dire parfois nos politiques sur le fait que c'est une histoire ancienne, qu'il faut aller de l'avant, qu'il faut pas regarder le passé, qu'on doit pas être dans la repentance. Là, en ce moment, il y a un documentaire qui sort sur qui s'appelle Dahomey, un documentaire de Mati Diop et qui parle de du retour des œuvres spoliées au Bénin, notamment spoliées par la France et qui doivent retourner au Bénin. Bon, voilà, ça reste des questions contemporaines et je trouvais ça intéressant le fait que ça fasse 250 000 vues et que ça soit autant commenté. Et ben, ça prouve que les gens ont encore besoin de parler de cette histoire et qu'elle n'est pas si ancienne que ça.
D'ailleurs, on fait des ponts aussi avec la Nouvelle-Calédonie de temps en temps, qui est encore une colonie française. Donc quand Macron dit « Ah, la colonisation, c'était un crime contre l'humanité », et puis deux semaines après, il va en Nouvelle-Calédonie, c'est ouf. C'est ouf.
Oui, et puis l'histoire des Antilles aussi, on entend souvent, il y a eu des révoltes en Guadeloupe, un peu moins en Martinique, mais la question des prix aussi en Guadeloupe pour les produits de consommation courante, ça aussi, la politique qui est faite là-bas dans les dom-tom, elle pose question et on a les réponses à ces questions quand on regarde souvent l'histoire.
Voilà, on va passer à la suite des nouveaux reportages et on enchaîne encore avec Russell qui va nous parler de l'instruction en famille.
Oui, voilà, donc c'est le premier bref que j'ai fait avec Télémilvage, c'était de faire J'ai suivi une manifestation qui était à le rectorat à Limoges pour les gens qui font une instruction en famille. Alors, en fait, ça raconte que l'instruction en famille, avant, c'était possible, c'était tout le monde peut le faire. C'était ouvert à tout le monde, mais ils ont changé le système dans un système où il faut demander une autorisation.
Oui, c'était déclaratif avant. Il fallait déclarer, mais il n'y avait pas de conditions pour pouvoir le faire, c'est ça?
Exactement parlant, c'était déclaratif. Et maintenant, il faut être autorisé d'avoir ton enfant qui fait instruction en famille. Et le truc qui était très, très, très difficile pour beaucoup de familles, en fait, c'était 4 motifs. Et le quatrième motif qui fait partie de la plupart des gens qui demandent, c'était il faut que l'enfant a la propre raison de faire instruction en famille, qui est propre à l'enfant. Et pour la plupart des familles, ils ont choisi de faire instruction en famille parce que ça suit leur rythme familial. Et pour leur enfant, ils pensent que c'est un truc, il aura des bénéfices de faire l'instruction en famille. Mais la préfecture et les gens qui décident, ils ont dit, mais ça, c'est vous qui choisissez. C'est pas une raison pour ton enfant. Donc, c'était beaucoup de gens angoissés à propos de le refus de faire l'instruction en famille pour se rentrer maintenant. Donc, en septembre, ça s'est passé en juin, pardon. Donc, c'était beaucoup de gens qui disent, nous avons plus de transparence avec le système pour pourquoi vous avez fait donner des refus aux gens pour le demande d'instruction en famille.
Oui, en tout cas, ça entérine le fait que l'instruction en famille ne peut plus être un choix éducatif, en tout cas. C'est ça le sens de la loi. C'est un truc pour pallier, par exemple, un problème de santé ou une particularité de l'enfant ou une spécificité de la vie de la famille, mais...
Oui, il y a certains cas qui étaient, si l'enfant a un handicap, s'il y a une famille itinérante ou un projet musical ou sportif, un projet particulier. Mais pour la plupart des gens, c'était un choix parce que c'était le choix de faire et maintenant, c'est pas...
Oui, c'est-à-dire que ce quatrième motif, en fait, il s'agit de justifier, d'apporter... une justification par les parents du fait que l'instruction en famille est bénéfique à leur enfant, mais par rapport à ce qu'est leur enfant, à l'identité de leur enfant, aux besoins de leur enfant. Et alors, ce qui paraît un peu arbitraire ou subjectif dans la décision du rectorat, c'est que le rectorat va juger, en fait, l'éducation qu'a envie de donner la famille aux enfants. Et c'est en ça que les familles pensent faire au mieux pour leur enfant parce qu'elles connaissent leur enfant. Mais en fait, il y a une institution qui décide de non. Nous, en tant que rectorat, on va décider de ce qui est mieux pour votre enfant, du bien-être, de ce qu'il faut pour le bien-être de votre enfant. Et c'est en ça aussi où les parents étaient très mécontents et cherchaient de la transparence sur les arguments de refus.
On écoute un petit extrait ?
Oui.
Nous, on est venus représenter le collectif, justement, représenter le fait que on ne comprenait pas qu'il y ait autant de refus, on ne comprenait pas les motifs des refus, surtout. On ne comprend pas ce motif 4 qui n'est pas défini, qui est très flou, qui est jugé de manière arbitraire. Et donc, on cherche à avoir des réponses, et les réponses étaient très évasives. Et ce qui ressortait surtout, c'était que l'IEF n'est plus un droit, en fait, c'est une dérogation. Donc l'instruction en famille n'est plus un droit. Il faut vraiment pouvoir prouver que ce n'est pas possible de scolariser nos enfants, alors que ce n'est pas ce qui est écrit dans la loi.
Cette année, donc, il a fallu qu'on fasse on demande une autorisation. Donc c'est ce qu'on a fait. On a eu 2 refus. Ensuite, nous avons fait un recours. Nous avons eu encore des refus. Et je trouve que c'est une décision très brutale, incompréhensible. Pour les enfants, ça a été un choc vraiment très brutal, un cataclysme. On a répondu aux obligations légales. On a toujours eu des contrôles positifs. Et voilà. Donc, de par ça, on est là pour défendre nos droits et ceux de nos enfants.
Voilà, elle exprime bien la chose dans l'extrait. C'est devenu une dérogation et non plus un droit.
Oui, exact. Une loi liberticide, la loi de séparation, c'était beaucoup de pancartes qui a dit ça parce que c'était lié loi contre le séparatisme en disant que maintenant il faut que c'est nous qui suit que vous avez un bon fond de républicain. Ça, c'est, ça fait une partie. Ça dépend avec, avec qui vous parle. Mais voilà, après ça, moi, j'avais suivi un petit peu les familles qui ont fait leur propre sondage dans le collectif de reconstruction en famille Limousin, qui ont dit, selon leur sondage, c'est toujours 50% de la famille qui ont fait une demande en un refus, qui est assez grand montant de gens.
On sait combien il y a de personnes qui veulent enseigner eux-mêmes à leurs enfants?
Elle a dit au début le reportage, c'est 600 enfants déclarés, mais ça ne compte pas les gens qui font des obéissances civiles, qui font malgré que la conséquence de la loi. Et les gens qui font ça, ils ont des punitions.
Attends, mais 600 en France?
Non, on dans le Limousin.
Ah, ok.
Yeah. En France, c'était quelque chose comme 50 000 enfants. Et ça, c'est les gens qui sont déclarés, donc c'est toujours une statistique qui est un peu floue, parce que c'est difficile de voir les gens qui sont hors de les systèmes scolaires. Comment vous pouvez compter ça?
Ouais, en tout cas, c'est un des durcissements actuels de la société pour plein de sujets, de son autoritarisme, quoi. On sent qu'on glisse quand même, depuis Macron, en fait, surtout, même avant déjà, mais là, c'est clair et net, vers une société autoritaire, non démocratique, enfin de moins en moins démocratique.
Oui, on est dans le contrôle. Et puis, ce qui est dur aussi pour ces familles, c'est qu'auparavant, elles pouvaient faire l'instruction en famille et qu'en fait, d'une année à l'autre, on leur dit ben non, c'est plus possible. Maintenant, ça sera à la discrétion du rectorat.
Oui, absolument. Avec les familles qui ont dit, comme la dame dans le bref là, l'extrait audio, elle dit qu'elles ont passé les contrôles positifs plusieurs années enchaînées. Et maintenant, elles arrivent en disant que oh, mais non, ton enfant n'a besoin pas. De faire instruction en famille, ils peuvent aller à l'école, en fait. Même ils n'ont jamais eu cette expérience, donc ça devait être assez dur, une expérience pour eux d'arriver.
Et ben voilà, on vous invite à aller écouter et voir cette brève sur le site de Télémilvache pour avoir un peu plus d'informations. Et puis, j'imagine que c'est un sujet sur lequel Télémilvache va continuer de travailler dans les années à venir. Ça avait déjà été le cas par le passé, je pense que...
Oui, absolument.
Et oui, le très beau jingle, je rappelle l'habillage fait par Russell.
Merci.
Le jingle numéro 7.
Pour mais ça suffit avec moi. Quelqu'un d'autre, s'il te plaît.
Et ben justement, on va passer à quelqu'un d'autre avec le dernier reportage, la dernière nouveauté de cette rentrée. Alors c'est une nouveauté, c'est un sujet qui n'est pas nouveau, mais c'est le dernier rebondissement, disons, de l'affaire dite du bois du chat. Qui c'est qui m'en parle?
Oui, c'est moi.
C'est Ayane.
Et donc j'ai réalisé la brève sur le bois du chat. En fait, il y a eu une mise à jour de ce dossier puisque le tribunal administratif a rendu un jugement qui est allé à l'encontre des entreprises qui ont entrepris ce chantier sur la forêt de feuillus du bois du chat. Donc il y a eu 3 condamnations, il y a eu des amendes et les motifs, c'était la non-déclaration de la rampe de débardage et surtout le franchissement du ruisseau. Parce que quand on entreprend un chantier comme ça, quand il y a un ruisseau dans une forêt, en fait, il faut le protéger et il faut le déclarer. Et ça n'avait pas été fait. Donc, traiter ce sujet, ça m'a permis de prendre un peu la température de ce qui se passait sur le plateau. C'était un sujet qui avait déjà été beaucoup traité par Télémilvache, qui avait été suivi, puisque c'est une mobilisation qui a duré presque 2 ans. Il y a eu plusieurs manifestations sur le bois du chat. Et ce qui m'avait intéressé en parlant avec Florent, mais c'est ce que j'ai compris un peu plus tard, parce que j'avais déjà fait une première version du sujet, et j'en ai fait une deuxième finalement. Et ce que j'ai compris, c'est que le collectif avait envie de dire clairement qu'ils avaient été accusés à tort, d'emmerdeurs, en gros, et que finalement, ils avaient raison, qu'ils n'avaient pas contesté pour rien et que leur contestation était légalement...
comment dire ? Fondée, quoi.
Fondée, absolument, qu'elle était fondée. Alors, les extraits que j'ai choisis, le premier extrait, c'est Ces trois représentants de la, du, de la, des sociétés forestières, en gros, il y a Christian Ribes, qui était à l'époque président de Fibois Nouvelle-Aquitaine. Ensuite, il y a Pascal Coste. Lui, il est président du conseil départemental de la Corrèze. En tout cas, il l'était à l'époque, en 2022. Et Francis Dubois, qui était député de la Corrèze entre 2022-2024. Bon, ces gens-là ne sont plus en poste aujourd'hui, mais en tout cas, ils l'étaient pendant les manifestations. Et en fait, les extraits que j'ai choisis, c'est des extraits où ils affirment qu'ils sont dans la légalité, qu'ils ont le droit de faire ce chantier, et que ben, les habitants, les le collectif d'habitants n'est pas dans son, dans son droit, et que... qu'il faut qu'ils arrêtent, en fait, d'embêter le monde, en gros. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'ils disent dans ces extraits-là.
On écoute.
Les pratiques sylvicoles sont encadrées. Nous ne faisons pas n'importe quoi.
Laissons travailler ceux qui travaillent en toute légalité, avec force, et qui servent notre territoire et qui servent notre environnement.
Si on prend le cas présent, par rapport à la réglementation, par rapport à la loi, par rapport à l'ensemble des codes, les choses sont respectées.
Donc voilà, on a un ensemble de représentants en fait qui déclarent des choses fausses et qui seront finalement condamnés. Enfin, tous ces représentants ne seront pas condamnés, mais qui représentent les entreprises qui ont été condamnées par le tribunal administratif. Et maintenant, on va entendre Corinne Ferraron, qui a constitué le dossier juridique avec d'autres habitants et qui était contente de claquer le beignet à ces gens-là.
On va pouvoir dire à tous les gens qui nous ont accusés d'être dans l'illégalité parce qu'on bloquait cette coupe et parce qu'on attaquait une propriété privée, l'illégalité, elle n'était pas de notre côté. C'est pas parce que c'est une propriété privée qu'on peut faire n'importe quoi. Nous étions, nous, conscients qu'il y avait des irrégularités dans cette coupe. On a eu une action pacifique, on est venu ici avec du café, des gâteaux en plein hiver pour informer et parler avec les bûcherons, parler avec l'entreprise. On a essayé de parler tout le temps.
Et voilà ce qui m'a interpellée. Je trouve que c'est un peu à l'image des combats pour l'écologie qu'il y a sur notre territoire, enfin en France actuellement. C'est que souvent, on va décrédibiliser des militants. Les militants pour la cause environnementale en disant que ben ils sont violents ou qu'ils sont hargneux ou qu'ils ont un idéal qui ne correspond pas à notre société aujourd'hui et en fait souvent la justice leur donne raison et dans ce cas-là c'était le cas.
Voilà, donc affaire alors pas tout à fait terminée d'ailleurs la lutte pour le bois du chat, parce que je crois qu'il y a encore un peu des recours juridiques qui sont encore en cours. Et je crois que notamment la CADA a finalement pas donné encore accès vraiment aux documents qu'elle avait été sommée de donner par la justice. Mais voilà, j'imagine que vous allez suivre ça encore comme depuis le début.
En fait, ouais, il y a l'action en justice n'est pas terminée, puisque maintenant les associations qui se sont portées en faveur du bois du chat, donc il y en a trois, hein. Il y a Sources et Rivières du Limousin, il y a Corrèze Environnement et Canopée Forêt Vivante, sont eux qui ont porté l'action en justice. Et aujourd'hui, ils continuent sur les atteintes à la biodiversité, en fait les dégâts que ça a causé sur la biodiversité du bois du chat. Donc il y a cette action qui est encore en cours. Et effectivement... il y a un organisme qui demande à avoir les documents sur les chantiers du bois du chat.
Oui, c'est ça. Le parc naturel régional a demandé à avoir accès aux aspects environnementaux du document d'exploitation. Mmh. Voilà, c'est toujours en cours.
Il y a une demande de transparence sur ce dossier-là.
Et ce qui les concernait, en fait, jusqu'à présent, ne pouvait, au nom du droit des affaires, c'est un terme juridique, en fait, secret des affaires, pardon, au nom du secret des affaires, n'était pas obligé de fournir ces documents. Et c'est aussi une des victoires suite à cette lutte du bois du chat, c'est que maintenant, je crois que c'est national en plus, tu es obligé, si quelqu'un te demande, n'importe qui d'ailleurs, te le demande, tu es obligé de fournir ces papiers. Mais ceux qui ne le font toujours pas. Donc non seulement ils disaient qu'ils étaient dans la légalité et les autres non, alors que c'était l'inverse, mais ils continuent à être dans l'illégalité, puisqu'ils ne veulent pas se soumettre en fait, aux décisions de l'État.
Voilà, eh ben, affaire à suivre. Et pour aujourd'hui, je crois qu'on a fait un peu le tour de ce dont on voulait parler. On peut rajouter des choses parce qu'il nous reste un petit peu de temps. Donc, Maud,
Oui, non, mais en fait, c'était par rapport aux ateliers ouverts. J'avais un petit exemple dont j'avais envie de vous parler de ce qui peut se passer dans les mercredis après-midi, parce que c'est un petit sujet que je trouve assez joli. C'est deux petites mamies qui sont venues nous voir en février avec un projet de film. Alors au début, elles voulaient faire un DVD. Leur idée, c'était de faire un DVD.
Mais ça, à Télé-Vache, c'est possible.
Oui, c'est possible, mais qu'est-ce qu'on met sur le DVD ? Et en fait, il s'avère que c'est un petit film. Donc c'est une musicienne et une historienne qui ensemble ont écrit un film sur le Taco, qui est un ancien transcorésien, une ancienne locomotive à vapeur. Et elles sont en train d'écrire, on est en train de les accompagner à l'écriture d'une sorte de petite comédie musicale historique autour du Taco. Voilà, donc voilà l'extrait.
On écoute.
Il ne reviendra plus, le petit train perdu. Il s'est trompé de gare, il faudra d'autres avatars pour se faire transporter tous les hurluberlus. Tous les gens mal foutus vont devoir s'adapter. Tous les mélancoliques, les rêveurs pathétiques, les anciennes jeunesses pleines de tristesse, de francs pour ses rondons, pour Saint-Pantaléon, et aussi pour Lenteuil, prendre l'habit de deuil. Il est temps d'oublier le train si désuet de notre tendre enfance, celui qui souvent ramenait les pépés, les mémés, les lapins, les poulets, les baisers s'envolaient dans l'odeur de fumée. Je me souviens du train, tu me tenais la main. J'avais 10 ans, je pense, depuis bien de l'eau a coulé sous le pont où pêcher n'est plus de toute urgence. Difficile à présent d'en prendre bien conscience. Que savent les gamins qu'il y avait un train qui coupait le silence, un train tout gris, un train qui avait un sens, un train de poésie d'une enfance partie d'un pays en errance. J'ai envie de pleurer quand je passe au mortier où se marque l'absence. Allez, allez, rompez le banc. Le petit train d'antan est parti pour toujours. On fait le deuil autour du petit train sans retour.
Quoi, presque dans un western, un peu un post-western corésien.
Ouais, c'est ça. Faut imaginer un jardin d'une grand-mère pendant le Covid, en train de gratter sa guitare et chanter une chanson à sa petite fille.
Sous le porche, quoi.
Ouais,
dans
voilà.
Une nacelle,
avec une roseraie.
Ouais. C'est beau. Bah, ça donne envie, en tout cas. On attend. Ça va sortir.
À venir, à venir.
On a une idée un peu.
Non, alors il y a plusieurs échelles sur ce projet. Il peut avoir une petite échelle et sortir en début 2025, mais il peut avoir aussi une grande échelle et illustrer chaque gare, parce qu'il y a une recherche sur chaque gare et il y en a une vingtaine. Et là, ça sera pour 2026. Grand
Super.
Projet.
Ben, on va suivre ça. Alors, ben, pour terminer l'émission, on va en faire un petit tour de table pour ceux qui ont encore envie de faire une petite annonce voilà, avant la fin, parler de quelque chose dont on n'a pas encore parlé.
Oui, moi je voulais teaser un peu sur un reportage qui va sortir peut-être la semaine prochaine, je pense, avec les nouvelles brigades mobiles, les gendarmes de Bujat, qui ont accueilli 6 nouveaux gendarmes quand même. Et donc ça nous a beaucoup interpellés dans le coin, qui sont ces gens, que veulent-ils faire, etc. Et on a eu la chance de pouvoir passer la journée entière avec eux. Et donc j'ai passé une journée avec eux, en plus pendant la fête de la chasse. Donc c'était quand même assez folklorique. Et du coup, au départ, moi j'étais parti sur un truc un peu plus, interroger les maires, les gens et tout ça. Puis finalement, cette journée-là... ça, c'est plus finalement un truc un peu en attendant Godot, voilà, ils sont là, puis il se passe rien. Mais il se passe quand même des petits trucs, et puis on déploie un peu finalement leur mission, voilà. Et donc j'en en dis pas plus.
Donc ça va sortir bientôt.
Ouais, semaine prochaine normalement.
Semaine prochaine, d'accord. Et on est sur un format...
Une dizaine de minutes, à l'ancienne.
Ayane.
Alors moi je peux vous parler d'une envie qu'on a à Télé 1000 Vaches et qu'on a pas mal impulsée ces derniers jours puisqu'on a fait un peu un déménagement de notre salle principale. On essaye de dégager l'espace pour créer un plateau de télévision. Un plateau télé ou un plateau, en tout cas quelque chose de joli qui nous permettrait d'accueillir des débats, d'accueillir des personnes qui auraient envie de s'essayer devant la caméra pour dire quelque chose, pour raconter une histoire, décrire citer un poème, chanter une goguette ou faire une vraie chronique sur une information, quelque chose qui s'est passé sur le plateau qu'ils auraient envie de décrypter. En tout cas, on a envie d'accueillir les gens et de leur donner envie de s'essayer à parler devant la caméra pour dire des choses intéressantes ou rigolotes. Voilà, donc on invite vraiment les gens à participer.
Alors c'est en cours, c'est vraiment un chantier qu'on ouvre et bientôt dans 6 mois
Non,
peut-être.
Pas dans 6 mois, Maud.
Dans plus longtemps ou dans moins longtemps?
Non, dans moins longtemps, dans moins ça longtemps. C'est avant la fin de l'année. Hein.
Ouais, mais en vrai, il faudrait qu'il y ait un beau décor et tout, que ce soit vraiment joli.
Il y a déjà un magnifique fauteuil club qui trône, c'est ça, voilà. On a envie de s'asseoir dedans déjà.
Ça commence. Mais l'habillage des murs et
qu'on
tout.
On a récupéré la déchetterie.
Et en vrai, le décor et tout ça, la mise en place, elle peut se faire aussi ensemble. Si vous avez des idées, si vous avez envie de créer un plateau télé, l'idée, c'est de se le prendre en main ensemble, quoi. Pour créer un espace d'expression pour tout le monde. Un endroit où on peut s'engueuler en toute sérénité aussi. Et on avait parlé aussi de faire un programme culinaire. Enfin, on a plein d'idées pour ce plateau télé.
Ah oui, les recettes du plateau de 1000 vaches, ouais. De la région, ça, on adore. On aimerait beaucoup faire ça.
Bah, beaucoup, beaucoup d'idées pour cette rentrée. C'est une rentrée, c'est normal. On a plein de,
ouais, on est ouf.
Plein de résolutions, on va dans tous les sens. Et puis, voilà, c'est bien, ça sert à ça. On va suivre aussi ça. Est-ce qu'il y a encore d'autres petites nouvelles avant de se quitter?
Non, mais c'est dû au fait aussi qu'il y a plein de nouvelles personnes. C'est presque un renouvellement de l'équipe, en fait. À part les deux vieux, là, dont je fais partie.
Oui, il y en a un autre qui est parti, il ne peut pas répondre. Mais... Et bah, dans ce cas, bon, on va se dire au revoir et puis on se retrouve d'ici 2 mois et on verra où en sont tous ces beaux projets. Et on parlera des reportages qui vont sortir d'ici là. Je pense qu'il va y en avoir un certain nombre.
Toutes les semaines, normalement.
Toutes les semaines, voilà. C'est le rythme maintenant que vous êtes fixé. D'accord, très bien. Et bah voilà, au revoir à toutes, au revoir.
Merci
à tous.
Raphaël.
Au revoir. Et puis à la prochaine.
Salut.
À une prochaine.